dans une épître, la deuxième épître de Pierre au chapitre 1 et au verset 16. Deuxième épître de Pierre au chapitre 1 et au verset 16. Je pense que vous et votre voisin, du moins la plupart d'entre vous, vous allez apprendre un mot qui pourtant est essentiel dans la Bible, qui est le mot parousia. Et mon thème de ce matin, c'est parousia, l'expérience personnelle qui change une vie, qui change ta vie. C'est indispensable de connaître ce mot. Moi, je ne le connaissais pas forcément, je l'avais entendu dire. En français, on peut le dire aussi parousie. Et c'est un mot qui est au cœur de notre foi chrétienne. On va ouvrir ensemble dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 1er et au verset 16. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu, le Père, lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vous l'avez pas vu le mot que je vous ai dit ? Et pourtant, il est dans le texte. Le mot parousia, c'est ce mot dans le verset 16 qui dit « Nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Parousia, une expérience personnelle qui doit changer ta vie, qui va changer ta vie. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui a écrit ces paroles, qui a permis que l'Esprit les souffle aux prophètes, à tous ceux qui ont rédigé la parole de Dieu pour que pour nous aujourd'hui, cette Bible soit nourriture et transformation dans nos vies. Je te prie maintenant pour qu'avec l'autorité divine, il y ait comme une percée spirituelle dans ce lieu ce matin, et surtout dans mon cœur ce matin, dans le cœur de cette personne qui entend ce message, pour que nous puissions comprendre quelle est la signification aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Parousia, une expérience personnelle qui change ta vie. Parousia. En grec. En grec, ça vient du mot, donc c'est avec Alexandre le Grand que ça s'est généralisé, parousia. Je ne sais pas si certains, vous avez vu ce film, enfin tous les films d'ailleurs traitant de Alexandre le Marque, quand le roi Alexandre le Grand rentre dans Babylone. Je ne sais pas si certains ont des images de comment c'est, je sais qu'il y a Hollywood fait souvent des films là-dessus. Parousia, c'est ça. C'est lorsqu'il y a une entrée magistrale d'un roi. Et quand Babylone ouvre les grandes portes et que le roi Alexandre rentre, c'est la parousia du roi Alexandre. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des éléphants ornés d'or qui sont en train de le tirer, lui, sur son char. Il est en hauteur. Tous les gens s'inclinent. Vous savez, c'est comme au temps de la Palestine. Il y a des palmes qui sont pliées devant. Les gens crient « Vive le roi !»« Honneur au roi !» Et le roi rentre et ça va transformer leur quotidien. Parce que ce n'est plus le même roi, ce n'est plus la même personne qui va régner sur la ville. Lorsque vous faites entrer le roi dans votre cœur, c'est dans votre, le cœur de votre ville, ça va vous transformer. Ça va changer tous les systèmes, ça va changer les valeurs, ça va changer les autorités, ça va changer qui va prendre les décisions dans la ville, comment vont être gérées les affaires quotidiennes, ça va changer les impôts, ça va changer aussi les investissements publics, ça va tout changer. Et ce mot parousia, c'est le même mot que Pierre utilise dans ce texte pour dire nous vous avons fait connaître quelque chose qui a bouleversé nos vies. La parousia de notre Seigneur Jésus-Christ. La venue du roi Jésus-Christ. Et alors je vous pose cette question maintenant, vous qui êtes des chrétiens depuis des années et qui connaissez bien votre Bible, quand est-ce que vous avez vu, il écrit un tout petit peu plus loin, il dit « Une voix s'est fait entendre du ciel, voici mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». C'était quand ce moment ? C'était quand ? Alors certains, vous allez me dire « Ah oui, j'ai déjà entendu ça dans la Bible. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Et la plupart d'entre vous, je sais ce que vous allez répondre. Vous allez répondre au moment où il a pris son baptême et qu'il a été immergé dans le Jourdain et qu'il y a une colombe qui est descendue et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Eh bien, vous avez tort. Eh bien, vous avez tort. Et moi aussi, j'aurais pu penser ça, mais vous avez tort. Il y a deux moments dans la Bible où le ciel s'est ouvert. Et c'est sur la montagne, effectivement. Mais laquelle ? La montagne du Tabor. Et on va tourner notre Bible, cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17. Parce qu'en fait, lorsque Pierre écrit cette lettre, il fait référence à quelque chose qu'il a vécu sur la montagne du Tabor, qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17. C'est d'ailleurs repris également dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, tous les deux au chapitre 9. Vous êtes avec moi dans Matthieu 17 ? Matthieu 17. Tout le chapitre d'avant, tout le chapitre 16, est un chapitre qui pose un problème. On arrive maintenant à un moment où Jésus se rapproche de Jérusalem et il y a une controverse. Qui est Jésus ? Est-ce que c'est un prophète ? Est-ce qu'il vient de Dieu ? Est-ce que c'est un illuminé ? Est-ce que c'est une philosophie de vivre ? Qui est Jésus ? Et à ce moment-là, on entend toutes sortes de réponses. Certains disent c'est un prophète comme Élie. D'autres disent c'est certainement un homme sage. D'autres disent c'est un charlatan. Et aujourd'hui, si je vous le dis parmi vos collègues de travail, dans votre famille même, quand vous parlez de Jésus, regardez tous les conflits que ça fait. Il y en a qui disent c'est un homme bien. D'autres qui disent mais c'est un illuminé qui a réussi. Et vous avez tous vécu cette discussion. Ou alors que c'est un repas de famille, ou alors qu'on est à table, ou alors qu'on est en train de prendre un café avec des collègues à la machine, on n'est pas d'accord sur qui est Jésus. Et vous ne savez pas quoi ? Tant que vous n'aurez pas vécu la parousia, vous ne saurez pas qui est Jésus. Vous pouvez parler, vous passez des heures, vous allez perdre votre temps. Je peux des fois expliquer 10 fois à un collègue qui est Jésus, ça ne va pas forcément lui dire quelque chose. Et vous voyez, ce texte-là, Jésus va leur répondre une fois pour toutes, qui il est. Et c'est pour ça que le chapitre 17 commence avec le mot « 6 jours plus tard ». Ça fait 6 jours que, pardonnez-moi l'expression, ils se prennent la tête pour savoir qui est vraiment Jésus. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. » Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, parousia ? Premièrement, la parousia, c'est une expérience personnelle très forte. C'est très fort. Ce que vont vivre Pierre, Jacques et Jean, c'est très fort. Et je suis convaincu que, parce que c'est déjà marqué dans le texte, mais que c'est vrai aussi pour nous, tout le monde ne le vit pas. Et c'est là le problème. Parce que c'est nécessaire de le vivre. Vous voyez, il y avait dans les disciples beaucoup de sympathisants. Beaucoup de gens qui aimaient Jésus. Il y avait des suiveurs. Et il y avait des personnes qui étaient plus engagées que des autres. Qui voulaient plus de Jésus, qui avait plus faim et soif de voir la gloire de Dieu. J'espère que c'est votre cas ce matin. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que Pierre, Jacques et Jean, ce n'était pas pour rien que Jésus leur a permis de voir ça. C'est parce que ces 3-là avec tous leurs défauts et leur sale caractère, ils ont quelque chose pour eux, c'est qu'ils étaient passionnés de voir la gloire de Dieu. Et Jésus les prend au mot. Simon-Pierre, c'est celui qui, quelque temps après, a dit dans un élan de foi, a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a répondu « Tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé ces mots, mais c'est mon Père qui te l'a révélé ». Ça n'a pas empêché quelques minutes plus tard de dire une énormité sur Jésus en disant « Ça ne t'arrivera pas à propos de la mort de Jésus ». Vous voyez, ce n'est pas parce que vous êtes parfait que Dieu vous amène là-dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin ? Vous comprenez que Jésus va prendre avec lui quelques-uns, pas forcément les plus parfaits dans leur caractère, des hommes qui ont faim de le voir dans sa gloire. Ce matin, depuis combien de temps tu viens à la réunion, à l'église, où tu lis ta Bible, mais par tradition ? Si tu fais ça par tradition, parce que c'est dans ta famille, ils sont chrétiens, parce que ta mère un jour t'a dit « oui, c'est mieux si tu deviens chrétien que tu prends ton baptême », si c'est ça, tu vas faire partie de tous ceux qui restent sur le banc et qui regardent le match. Dieu a mieux pour toi. Il y a ici des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu. Et si toi qui écoutes ce message, tu as faim et soif de Dieu, tu vas voir la venue d'un roi dans ta vie. Et c'est ça la parousia. Et c'est ça qui va bouleverser que ces trois-là, Pierre, Jacques et Jean, ne vont pas être comme les autres. Parce qu'il va se passer cette expérience personnelle très forte. Regardez, la première chose, c'est que Dieu leur dit « tu montes ». Vous aimez bien monter, vous ? Enfin, on aime tous bien faire une petite côte. Enfin, même c'est sympa au début, vous êtes dans la montagne, vous démarrez la randonnée, vous avez acheté vos nouvelles chaussures à Decathlon, vous êtes tout fier, vous sentez porter des ailes. Mais au bout de quelques temps, que les chaussures elles vous font moins d'effet et que les mollets, eux, vous en font beaucoup plus, il y a une dynamique qui commence à s'estomper. Hein. Et vous voyez, le mont Tabor, c'est haut. Et c'est haut par 40 degrés. Et il n'y a pas forcément toutes les gourdes qu'on aurait dû anticiper. Donc au bout d'un moment, je sais que dans cette salle, il y a des personnes sportives qui ont fait des marathons, qui ont fait des courses. Bravo, vous m'impressionnez. Parce qu'au bout d'un moment, c'est difficile, vous voyez. Il y a un effort qui coûte. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Pierre, Jacques et Jean, il y a un moment où, lorsque Jésus leur dit « vous montez », ça vous coûte de monter. Je peux vous dire, je ne sais pas si ce matin vous êtes venus avec joie dans cette chambre haute qui s'appelle la maison de Dieu. Mais des fois, ça vous coûte de vous lever. Je vais être très franc. Ce matin, il y avait peut-être des passionnés de rugby. Et qui se sont dit « ah, ça tombe mal !» Eh bien, Dieu voit que vous avez fait le choix de Dieu. Et je peux vous dire que vous pouvez vivre ici plus fort que ce que vous auriez vu dans un match. Vous pouvez voir une gloire de Dieu qui fait que ça a du sens dans votre vie. Je ne dis pas que les disciples qui étaient restés en bas, ils n'ont rien vu. Ils ont certainement vu des choses très sympas en bas de la montagne. Mais je vais vous dire quelque chose, un secret, moi, dans ma vie. Je préfère être en haut. C'est sûr que ça va me demander des efforts, ça va me demander de monter. Que je vais devoir renoncer à des choses pour venir à l'église. Que je vais devoir renoncer à des choses, des fois, pour dire, ok, je vais arrêter cette télé. Je vais prendre un temps avec Dieu parce que je veux voir la gloire de Dieu. Et si Dieu te voit là-dedans, il va venir. Méfie-toi, la parousia est proche. Sur une haute montagne. Alors, on lit ce qui se passe. C'est incroyable. On lit ce qui se passe dans cette parousia. Il ne s'attendait pas à voir ça. Verset 2, il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil et ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. J'aurais voulu être là. C'est de voir ce changement d'image de Jésus. J'espère que vous l'avez vécu. Écoutez bien, suivez maintenant, c'est vraiment le moment important. Vous avez toujours entendu parler de Jésus. Pour certains, ça fait des années que vous passez avec Jésus. Vous allez à des réunions dans lesquelles il ne se passe pas forcément toujours grand-chose dans votre cœur. Ce jour-là, Jésus a voulu que ses disciples voient sa gloire. C'est-à-dire qu'ils le voient différemment d'avant. La parousia, c'est lorsque les disciples vont voir Jésus être transfiguré. C'est-à-dire qu'il avait une figure avant. Ça veut dire qu'il le voyait Jésus d'une certaine façon. Et à partir du moment où ils ont vu ce qu'ils ont vu sur la montagne de la Transfiguration, ils ne verront plus jamais Jésus pareil. Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a un jour ou bien une durée, des mois, où tu as senti dans ton cœur que ta vision de Jésus changeait? Je sais qu'il y a ici des sympathisants, des personnes qui aiment bien Jésus. Mais je peux vous dire une chose, vous n'avez pas vu Jésus venir comme un roi tel qu'il est. Vous avez Jésus comme un ami, vous avez Jésus comme peut-être votre sauveur, vous avez Jésus comme celui qui dit « Je suis capable de te bénir », mais est-ce que vous avez vu Jésus venir en roi dans votre vie? Je continue. Vous voyez, certains, on se fait un Jésus à taille humaine. Et là, il faut arrêter ça. Si tu as vu que ça, c'est une religion. Parce que, qui s'appelle Krishna, Mohamed, Moïse, Élie, et tous les prophètes que vous pourrez citer, c'est des hommes. C'est peut-être, pour certains, des hommes extrêmement respectable, mais c'est des hommes. Et les disciples, ce qu'ils vont voir aujourd'hui, c'est que Jésus est plus qu'un homme. Mais concrètement, ça veut dire quoi dans ta vie? C'est que Jésus doit être plus qu'un simple ami, qu'un simple copain humain. Jésus, est-ce que tu l'as vu comme roi dans ta vie, qui explose tous tes préjugés, qui est resplendissant et qui illumine ta vie? Ils l'ont vu blanc, plus blanc que le soleil. Je ne sais pas si certains ont un petit peu connaissance de l'histoire, mais vous avez entendu parler du roi soleil, par exemple en France. Lorsque Louis XIV a pris ce titre, c'est parce que le soleil, c'est les rois. Parce que les rois ont toujours essayé d'imiter ce soleil. Jésus n'a pas besoin d'imiter le soleil, il est le soleil. Il est la lumière qui va exploser à la figure des disciples. Il n'a pas besoin de se déguiser d'un soleil. Il n'a pas besoin de se déguiser d'or. Il est la lumière qui vient de Dieu. Et c'est ça que les disciples vont voir ce jour-là. Ils vont dire, mais en fait, on voyait Jésus d'une certaine façon. C'était notre petite religion. C'était notre maître. C'était notre gourou. Enfin, c'est comme ça que vous pourriez dire ou que vos collègues disent. Mais là, ce n'est plus le cas. Là, c'est le soleil de ma vie. C'est ça la parousia. Si je l'ai vu venir en roi dans ma vie. Vous avez vu le verset d'après? Il y a Moïse et Élie qui viennent parler. Vous savez pourquoi c'est Moïse et Élie qui viennent parler? Qu'est-ce que viennent faire Moïse et Élie dans cette histoire? Il y a dans la vision que Pierre, Jacques et Jean, il en faut trois parce que si c'était qu'un seul, on aurait pu dire qu'il a fait un mauvais rêve, qu'il n'était peut-être pas clair, qu'il avait abusé de quelque chose. Mais dans le principe de la théologie juive, lorsqu'il y a trois personnes qui témoignent de la même chose, c'est que c'est vrai. Pierre, Jacques et Jean sont là. Ils voient Moïse et Élie. Je dis, mais de quoi ils ont parlé? Là, ce texte ne nous le dit pas. Mais par contre, l'évangile de Luc nous dit ce qu'ils disent. Vous savez de quoi ils parlaient? Ils parlaient de la mission de Jésus et de sa mort qui allait venir. Vous le voyez dans l'évangile de Luc. C'est au chapitre 9 et au verset 31. Ils s'entretenaient de ce que Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Il s'entretenait de ce que Jésus allait mourir à Jérusalem. Écoutez ça, c'est théologique ce matin, mais c'est important de le comprendre, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais Moïse, c'est la loi de Dieu. Moïse, c'est celui qui est venu en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de meurtre. » Et vous connaissez les 10 commandements. C'est Moïse qui a dit « ça c'est mal, ça c'est bien ». D'accord? C'est la loi de Dieu. C'était une révélation extraordinaire. C'était une révélation qu'un homme a écrit de la part de Dieu, c'est Moïse qui a porté ça. Pourquoi Élie? Parce que Élie, lui, est le représentant de tous les prophètes qui sont venus. Vous les connaissez, les prophètes? Amos, Abdias, Jonas, Miché, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Ils sont nombreux, les prophètes. Il y a Élie, il y a Élisée, il y a Jérémie, il y a tous les autres. Daniel, Ézéchiel, Osée, Joël, tous ces prophètes, leur représentant, c'est Élie. Vous savez pourquoi? Parce que Élie, c'est le symbole du prophète qui a fait qu'une loi qui était écrite pouvait être vécue dans un cœur. Et il a prophétisé en disant, Dieu pense ça de ta vie. Et il a osé le dire même à des rois hyper corrompus. Il a osé leur dire, Dieu n'est pas d'accord avec tes façons de faire. Et il a été le prophète qui a été capable d'arrêter et de dire, il ne pleuvra plus sur ce pays pendant tant de temps, etc. Il y avait une puissance de l'onction de Dieu sur Élie qui était incroyable. D'ailleurs, Élisée a dit, je suis jaloux, je voudrais simplement le double de ce qu'il a eu. Vous voyez, c'était tellement fort, tellement fort. Alors, il y a la loi de Moïse, Moïse qui représente la loi, et les prophètes, et qui s'entretiennent avec Jésus. Et vous savez ce qu'ils sont là? Ils sont en train de se dire, waouh, Jésus, tu y vas, tu vas mourir à la croix pour sauver l'humanité. Tu es l'accomplissement de la loi et des prophètes. Tu es l'accomplissement de la loi parce qu'en mourant sur la croix, tu vas porter les péchés de l'humanité. Et tu es les prophètes parce que tu vas révéler les mystères de Dieu à l'humanité. Tu vas révéler la notion de plan de Dieu à l'humanité. Tu vas révéler qu'il y a maintenant un consolateur, un esprit de vérité qui peut prophétiser dans la vie de chacun, de toi et moi aujourd'hui, et qui nous conduit vers Dieu. Il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et c'est pour ça que Moïse et Élie, ils ont le droit à un rendez-vous avec Jésus, ne manque pas. Et pendant ce temps-là, étape suivante, il y a Pierre, Jacques et Jean, et Pierre toujours, il parle le premier, mais c'est son caractère. Et dit, il est vraiment bon qu'on soit ici. C'est une bonne réunion, vous voyez. Est-ce que vous avez vécu des fois des bons moments spirituels? Peut-être tout seul, peut-être avec des autres. Moi, je peux vous dire, je me rappelle un camp d'ado en 95 où il y avait une telle présence de Dieu dans la salle. On venait à la réunion en traînant des pieds. On ne voulait pas partir se coucher une fois qu'elle avait commencé. Pourquoi? Parce qu'on avait beau être des ados durs et pénibles. Quand le Saint-Esprit est dans la place, la réunion n'a pas la même saveur. Des chants que l'on chante pour se forcer, tout d'un coup, vous sentez que l'Esprit de Dieu est là et vous dites « Wow !» J'ai vu des gaillards, mes amis, qui étaient bouleversés. Des gars qui juraient, qui étaient opposés à Dieu. Quand ils étaient face à une telle gloire de Dieu présente, mais quasiment, on pourrait presque la couper au couteau tellement c'était palpable dans la salle. Il n'y a que ceux qui ont vécu des moments comme ça qui peuvent comprendre ce que je dis, vous voyez. Un moment où vous voyez la gloire de Dieu. Vous savez que là, partout où deux ou trois sont assemblés, Dieu est présent au milieu de nous par son esprit. Mais je dois dire quand même qu'il y a des temps de parousia spirituelle, de parousia, où vous voyez le roi de gloire venir, quoi. Et vous ne le voyez pas comme avant, vous le voyez, mais... C'est fort, c'est tellement fort. Et du coup, il y a Pierre qui dit, on est trop bien là, on s'installe. Mais au même moment, la nuée de Dieu descend du ciel, les entoure. Et vous voyez, l'ambiance va changer. L'ambiance va changer parce que du coup, Pierre qui voulait rester et qui était bien, le verset nous dit, ils furent saisis, remplis de terreur. Vous savez, lorsque il y a des niveaux dans la présence de Dieu, il y a un niveau où, et ça je ne l'ai pas expérimenté souvent, mais je sais, parce que les quelques fois où ça m'est arrivé, ça m'a marqué. Il y a un niveau où la présence de Dieu est tellement forte que vous sentez, mais d'un coup, mais ça vous paraît mais évident, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes indigne, que votre péché est dégoûtant et que vous ne pouvez pas tenir en face d'une blancheur éclatante comme ça. Je peux vous dire qu'il y a des moments où Dieu va se révéler à vous, ce que je vous souhaite, où la présence de Dieu sera tellement forte que la seule chose, le seul réflexe que vous avez, c'est de tomber sur vos genoux et de vous cacher la tête. C'est de dire, Seigneur, aie pitié de moi, on n'est pas du tout en règle avec toi. Parce que même si c'était des disciples qui marchaient avec Jésus depuis des années, il y avait plein de défauts. Et face à la gloire de Dieu, ça, tout d'un coup, ça paraît énorme. Vous savez, on parle de la conversion dans nos milieux, mais c'est ça la conversion. La conversion, ce n'est pas seulement de dire, Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, c'est indispensable. D'ailleurs, Jésus, à la fin, va leur dire, si vous n'avez pas compris la croix, vous ne pouvez pas comprendre. Ne parlez même pas de la parousia, ne parlez même pas de ce que vous avez vu tant que vous n'aurez pas compris la croix. Mais si tu as compris la croix, tu vas vivre ce que j'appelle cette expérience de la transfiguration. Tu vas voir Jésus changer de visage dans ta vie. C'est le jour où tu dis, Seigneur, je te suivais par habitude ou par amitié. Aujourd'hui, je te fais entrer comme le roi de gloire dans ma vie. Je reconnais que tu es immense, grand et glorieux, et que moi, je ne suis pas à la hauteur dans mes projets. Une voix qui les fait super avoir peur tout d'un coup. Et vous savez, si vous ne vivez pas cette parousia sur la terre, vous la vivrez au ciel. Et là, je parle à tous ceux qui savent très bien qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu, qui n'ont pas fait cette expérience déterminante, cette transformation où Jésus change de visage, change de place dans votre vie, où il n'est plus seulement le copain, où Jésus devient le Seigneur dans votre vie, où il n'est plus l'ami, il devient vraiment le roi de gloire qui dirige votre vie, qui vous conseille, qui vous conduit, celui que vous suivez, non plus même vous-même qui vous conduisiez. Ça change tout, il y a une transformation là. Mais si vous ne le faites pas là, de toute façon, un jour on sera tous devant le trône de Dieu. Et là, ça va briller, mes amis. Et votre sentiment de péché, si vous ne l'avez pas maintenant, vous l'aurez là-haut. Parce que lorsqu'on va arriver devant le trône de Dieu, il ne va pas mettre des paravents et des pare-soleils pour que vous ne soyez pas illuminés. Hein. Vous allez vous sentir, mais tel que vous êtes. Et si vous n'avez pas été lavé, si votre cœur n'a pas été nettoyé par le fait que vous ayez reconnu que Dieu l'a envoyé pour payer à votre place vos péchés, et si vous n'avez pas fait cette transformation de dire « Seigneur, je te reconnais dans ma vie comme le roi de gloire », il va y avoir un souci. Ton péché va être énorme. Et il t'aura manqué une expérience essentielle. Celle de, pas seulement de la repentance, mais de la conversion, celle de la parousia, celle du moment où tu dis « Mais Dieu, je veux te voir comme le roi de gloire dans ma vie. J'arrête de briller à moi tout seul. » Je parlais à un ami qui a eu un accident de voiture. Un accident grave, vous voyez. Je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être, ont eu ces accidents. Vous voyez ce que je dis quand une seconde, ben, ça ne fait pas une seconde. Il me disait qu'il était avec sa 205 et il y a une voiture qui arrivait en face, qui a raté le tournant et qui leur est rentrée pleine face. Il dit, écoute, Yvain, je ne sais pas ce qui se passe, mais des accidents en temps normal, ça dure poignée de centièmes de seconde, d'accord ? Vous entendez le cri, pas ! Et c'est pas long. Il dit, mais moi j'étais dedans la voiture. J'avais mon ami à côté de moi. Et je peux te dire que j'ai encore, c'est comme si mon cerveau avait imprimé seconde, enfin millième de seconde par millième de seconde, la tôle froissée qui se rapprochait de nous et de nos jambes. Et on se disait, c'est fini. Et il dit, c'est incroyable, il dit, parce que mon œil a pris des clichés, mais des centaines de clichés par seconde qui ont imprégné mon inconscient parce que je me suis dit, c'est le jour où je vais rencontrer Dieu. Et là, dans une fraction de seconde, vous sentez en mini ce que vous allez ressentir le jour où vous serez devant le roi de gloire au ciel. C'est ce sentiment de dire, c'est fini, je ne maîtrise plus rien. C'est fini, c'est plus moi qui me juge, il y a quelqu'un qui j'arrive devant le soleil, pas de ma vie seulement, le soleil de toutes les vies. Est-ce que je le connais ? Est-ce que je l'ai fait rentrer dans mon cœur ? Et certains ce matin, même s'ils sont sauvés, ils sont en train de stresser. Parce que vous dites, ça fait longtemps quand même que Jésus, j'en ai fait un peu une religion. Hein. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi toi qui dors. Toi qui dors spirituellement. Parce que Dieu a plus pour toi, il veut révéler vraiment sa gloire dans ta vie. Et ils sont en stress, les disciples. Ils sont en stress jusqu'à ce que, je vais vous rassurer. Regardez le texte, enfin le texte va vous rassurer. Donc ils entendent cette voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Arrêtez de diriger vos vies comme vous le faites. Il y a un moment où écoutez Dieu. Est-ce que Dieu a autorité dans votre vie ? Est-ce qu'il est le roi ? Est-ce que Dieu est vraiment sur le trône dans votre vie ? Écoutez-le. Et là, les disciples, ils disent, il y a plein de choses à changer. Il y a plein de choses à changer. Je ne suis pas à la hauteur de ce que je vois. Et ils entendent cette voix de Dieu, ils disent aïe, 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 aïe. Et regardez ça. Regardez l'instant d'après. Les disciples tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, relevez-vous, n'ayez pas peur. Vous savez ce que ça me révèle, ça ? C'est que si j'ai Jésus dans mon cœur, si j'ai fait cette expérience où il est le roi, il est le Seigneur, ben j'ai pas à avoir peur de la plus inquiétante des lumières. Vous savez, je crois qu'au ciel, je ne vais pas faire le malin. On ne fait jamais le malin quand notre dernière heure est arrivée. Jamais. Tout est futile. Votre compte en banque, vos amis, vos parents, vous embarquez personne avec vous. Si vous embarquez quelqu'un, celui qui a dit « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Encore faut-il que vous l'ayez fait rentrer dans votre vie comme Babylone a ouvert les portes à Alexandre le Grand. Est-ce que vous avez ouvert véritablement les portes de votre vie ? Je termine ce matin. Le texte que l'on a lu au tout départ, on va le reprendre pour terminer. Ça va changer ta vie. Je termine avec ça, c'est ma conclusion. La parousia, ça va changer ta vie. Tu ne pourras plus être pareil. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Verset 10. C'est pourquoi, frère, puisque Dieu vous a appelé et choisi. Eh, rassurez-moi, c'est le cas pour vous aussi. Vous savez que vous êtes appelé par Dieu, vous êtes choisi par Dieu. Mais vous êtes des privilégiés, mais vous imaginez même pas. Vous ne vous rendez pas compte que ce message, qui est un des messages que vous entendez, si vous le vivez, si vous le mettez en pratique, il change votre vie. Vous avez été choisi, aimé par Dieu. Jésus s'approche de vous, vous pose la main sur vous et dit, mais n'ayez pas peur, je suis avec vous. Redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel, de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà. Et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde. De ce monde. Vous savez ce que ça veut dire tant que je serai encore de cette tente ? En grec, c'est le même mot. C'est le même mot quand Pierre disait « Il est bon que nous installions des tentes. » Ça ne dure pas les tentes. Hein. Votre corps, c'est une tente, mes amis. Hein. C'est une tente qui se plie. Hein. Et si Décathlon arrive à inventer des tentes qui se plient, qui s'ouvrent et qui s'installent en quelques secondes, on sera devant Dieu également. Hein. Notre tente repliée. Hein. On n'est que des tentes, hein, face à Dieu. Et il dit, tant que je serai encore dans ce monde, dans cette tente, c'est le mot exact, c'est dans cette tente. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, car notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin, même après mon départ, que même après mon départ, vous vous rappeliez toutes ces choses, toujours ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. Lorsque nous vous avons fait connaître la parousia de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il a fait entendre cette voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Or cette joie qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions sur la Sainte Montagne. Est-ce que vous comprenez la conclusion ? C'est-à-dire que lorsque vous avez vécu cette expérience, votre vie est transformée. Certains d'entre vous, vous n'avez pas de témoignage à raconter. Lorsque vous êtes par rapport à vos amis et qu'il y a une discussion sur Jésus, vous leur dites, c'est quelqu'un de bien. Jésus, c'est fort. L'apôtre Pierre, il dit, hé, je ne vous ai pas raconté des histoires. Hein. Je l'ai vécu dans mes tripes. Cette voix, je ne suis pas appuyé sur ce que ma maman m'a dit. Je ne me suis pas appuyé sur ce que j'ai lu dans un livre. Je me suis appuyé sur une expérience que j'ai faite dans ma vie. Lorsque j'étais sur la montagne, lorsque j'ai vu le ciel, j'ai vu mon Seigneur resplendir. C'est ça que je vous témoigne. Je ne vous témoigne pas d'un truc que j'ai entendu, de quelqu'un qui a entendu, de quelqu'un qui a entendu. Je vous témoigne de quelque chose que j'ai vécu. Je témoigne de cette venue de Christ qui nous a bouleversés. Je parle de lorsque nous avons entendu cette voix. Mais votre témoignage, il est plus pareil, mes amis, lorsque vous avez quelque chose à raconter. C'est plus pareil. Moi, je pense à cette jeune fille qui j'avais un entretien cette semaine, qui me dit, Yvan, un jour de baptême, j'ai vu les personnes qui s'engageaient avec Dieu. Elle me dit, ce jour-là, je me suis dit, c'est Jésus que je veux suivre. Il est mon Seigneur dans ma vie et je ne lâcherai plus jamais. Et elle, 6 mois plus tard, elle prenait son baptême. Mais je lui ai dit, mais tu sais ce que tu as vécu là? C'est une révélation de la gloire de Dieu. C'est le jour où tu as dit, Seigneur, non seulement tu m'as sauvé, tu as pardonné mes péchés, mais tu es le Seigneur, tu es le patron dans ma vie. Ça s'appelle la parousia. Et je lui ai dit, ce jour-là, tu étais une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, tu es une enfant de Dieu. Et je dis, ce jour-là, alors que c'était le baptême des autres, c'était ton jour de naissance spirituelle. Je dis, c'est pas toi qui as révélé ces choses. C'est pas de toi-même que tu peux dire, Jésus, tu es le Seigneur, et maintenant tu as le contrôle dans ma vie. C'est pas toi qui le dis, c'est comme l'apôtre Pierre. Ce qui te l'a révélé, c'est Dieu le Père qui a mis son Saint-Esprit à l'intérieur de toi et qui dit, oh, Seigneur, c'est toi que je veux voir et je veux voir ta gloire dans ma vie. On va fermer les yeux ensemble. Il serait peut-être temps que tu revoies la gloire de Dieu dans ta vie. Où est-ce que se situe Dieu dans ta vie? Il est sur le trône ou bien c'est un ami qu'on contacte de temps en temps, à qui on donne un coup de téléphone quand ça va mal? Dieu veut plus que ça dans ta vie. Tu veux voir la gloire de Dieu? Il faut que tu aies un témoignage à raconter. Est-ce qu'il est le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu peux raconter à tes amis des choix où c'est Dieu qui t'a conduit plutôt que toi-même? Est-ce que tu as des témoignages à raconter où, alors que tu allais aller quelque part, faire quelque part, Dieu t'a dit non, non. Et tu peux leur dire, j'ai évité bien des erreurs avec mon Dieu. Pas seulement des miracles Dieu a fait pour toi, mais aussi des moments où il a révélé que c'était lui le Seigneur. Je vais vous laisser quelques instants, quelques secondes de réflexion sur votre vie. C'est qui majesté chez vous? C'est votre moi qui est sur le trône? C'est votre personne qui est sur le trône? Parce que c'est bien, c'est vrai que dans le passé, vous avez passé du temps avec Jésus, comme les disciples ont passé du temps avec Jésus. Ça faisait des années qu'ils passaient avec Jésus, mais ils n'avaient jamais vu ce que ça voulait dire. Avoir le Seigneur dans sa gloire, venir vers eux. Tu as besoin de revoir Dieu dans sa gloire, revenir vers toi. Tu as besoin d'ouvrir les portes de ta ville parce qu'à l'heure actuelle, tu t'es enfermé avec toi-même. Et il n'y a plus personne d'autre que toi-même qui rentre dans ta ville.
Me voici. Gloire ce matin. Qu'il y ait des expériences nouvelles, qu'il y ait des conversions ce matin dans ce lieu. Que ce soit à la place du Seigneur, Seigneur, pas seulement de l'ami. Seigneur, on veut plier le genou devant toi. Je demande à tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur personnel, comme leur Seigneur, de se lever. Majesté,
majesté,
Seigneur Jésus, prends ton trône de nos vies.
Ta grâce trouvée telle que je suis, sans valeur mais pour toi perdre de prix. Majesté.
Gardons les yeux fermés, tendons les mains vers Dieu. La Bible dit, élevez en tout lieu des mains pures. Laissez rentrer le roi de gloire dans vos cœurs. Ouvrez les portes à celui qui vient dans le nom du Seigneur. Parce que c'est le salut pour votre vie. On plie le genou à l'intérieur parce que le roi de gloire rentre. Pour certains d'entre vous, ça veut dire qu'il y a des choses que vous abandonnerez. Vous direz, Seigneur, je te donne la clé de cette pièce de mon cœur dans laquelle j'ai toujours voulu garder le contrôle. Que ce soit ma vie sentimentale, ma vie financière. Seigneur, tu connais mes choix, mes décisions. Je te donne les clés de ma vie. Je laisse entrer le roi de gloire. Alléluia. Alors que les frères s'avancent pour la Sainte Cène, que nous puissions vraiment chacun ici à notre place. Examinez nos cœurs, examinez vos cœurs. Parce que si vous prenez le pain et le vin qui symbolisent le corps et le sang de Jésus et que vous le prenez et que vous le mettez en vous, alors qu'en vous il n'a pas de place, il y a un problème. Si vous dites je veux que la vie de Jésus rentre en moi, et c'est un symbole par la Sainte Cène, la vie de Christ rentre en moi par la Sainte Cène, j'espère que tu lui fais de la place. Ça ne va pas passer autrement. Et la Bible dit que ceux qui ne discernent pas ce que veut dire la mort à la croix, le sang de Jésus qui a pardonné tes péchés, raconte pas d'histoire. Il a dit à Pierre, Jacques et Jean, tant que vous n'avez pas compris la croix, racontez pas d'histoire aux autres. Ne racontez rien aux autres si vous ne l'avez pas vécu. Est-ce que Jésus est le Seigneur dans votre vie? Alors prenez la Sainte Cène, c'est la vie pour vous. La Sainte Cène, c'est extrêmement fort, c'est ce qui nous reste de Jésus, avant qu'on soit dans la gloire avec lui, que nous aussi on décolle là-haut.
Prosterne devant ton trône, ô Saint-Esprit, viens, rends-nous un. Et je détourne mes yeux du mal, ô Dieu, j'abandonne mes idoles.
Je me prosterne.
Je me prosterne devant ton trône. Ô Saint-Esprit, viens, rends-nous un.
Et je détourne mes yeux du mal. J'abandonne mes idoles. Rends mes mains pures, rends mon cœur saint. Que mon âme soupire d'après toi. Rends mes mains. devant mon cœur saint, que mon âme ne soupire qu'après toi. Seigneur, fais de nous un peuple qui marche avec toi, qui cherche ta face, ô Dieu de Jacob. Seigneur, fais de nous.